Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Jusqu'à présent, en examinant les Écritures, nous avons vu que Dieu n'a pas laissé l'homme sans instruction dans le domaine alimentaire. Dieu a établi des lois de la santé toujours valables aujourd'hui. Nous avons parcouru, très succinctement, un rapport médical publié par une grande revue américaine. Ce rapport explique que la chair des animaux que Dieu a déclarés impurs contient des toxines qui, immanquablement, sont transmises à l'homme qui en consomme. Ces toxines l'empoisonnent, provoquant des ulcères, des angines, l'appendicite, l'impétigo, des furoncles et diverses autres maladies comme l'arthrite, l'arthrose, le cancer, l'infarctus, myocardique et j'en passe. Par contre, les ruminants qui peuvent être consommés possèdent un estomac composé de plusieurs poches dans lesquelles passent successivement les aliments avant de parvenir aux intestins. Les toxines ne s'accumulent donc pas dans leur chair, mais elles sont éliminées. De nombreux prédicateurs qui ne veulent pas admettre que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, rejettent l'Ancien Testament et ferment aussi les yeux sur les différents passages du Nouveau Testament qui confirment que toute viande impure doit être écartée du régime alimentaire de l'homme. Pour se donner raison, ils tirent ces passages de leur contexte et leur font dire ce qu'ils ne disent absolument pas. Lorsque vous examinez les instructions divines qui se situent dans le 11e chapitre du livre du Lévitique, vous constaterez que Dieu donne l'ordre de manger de la viande. Il dit « Voici les animaux dont vous mangerez ». Dans sa traduction, André Jouraki écrit « Voici l'animal que vous mangerez ». En répétant cette loi dans le 5e chapitre du livre du Deutéronome, Moïse écrit « Voici les animaux que vous mangerez ». Se référant aux poissons purs, la Bible ajoute « Vous mangerez de tous ceux qui ont des écailles et des nageoires ». André Jouraki traduit « Vous mangerez ceci parmi tout ce qui est dans les eaux ». Tout ce qui est nageoire et écaille dans les eaux, dans les mers et dans les fleuves, vous en mangerez. Nous voyons donc que le végétalisme, qui exclut toute alimentation ne provenant pas du règne végétal, n'est pas conforme à la parole de Dieu. Faut-il ou non manger de la chair animale? L'homme a besoin de protéines animales et de certains acides aminés qui ne se trouvent que dans la chair des animaux. Quelqu'un qui ne mange ni viande ni poisson est physiquement plus faible qu'une personne qui en mange, et ses capacités mentales sont diminuées. L'homme a besoin de protéines animales et de certains acides aminés qui ne se trouvent que dans la chair des animaux et des poissons. Lorsque l'Éternel se présenta à Abraham parmi les chênes de Mamré, Abraham fit préparer un veau tendre. Les sacrificateurs mangeaient les viandes du sacrifice de culpabilité et du sacrifice d'expiation. Alors que le peuple d'Israël se trouvait dans le désert, Dieu lui donna des cailles, et si certains furent malades et en moururent, c'est parce qu'ils s'engouinfrèrent. En effet, le récit biblique raconte qu'ils mangèrent avec tant de convoitise qu'ils ne prirent pas la peine de mâcher. Dans le Nouveau Testament, il est question du veau gras que l'on tue pour fêter le retour du Fils prodigue. Jésus lui-même a mangé l'agneau pascal avec ses disciples. Il a multiplié les pains, mais aussi les poissons. Paul, citant les doctrines de démons, se réfère à ceux qui prescrivent de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Et Paul ajoute « Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. » Pouvons-nous demander à Dieu de bénir une nourriture qu'il a déclarée impure? Non. Vous devez bien vous rendre compte que nous ne pouvons pas demander à Dieu de sanctifier ce qu'il considère comme abominable pour la nourriture de l'homme, puisqu'il nous ordonne de ne point en manger. En fait, toute viande en provenance d'animaux impurs ne doit pas être considérée comme étant de la nourriture. Ceux qui ne veulent pas se conformer à la volonté de Dieu prennent comme excuse le passage suivant en le tirant hors de son contexte. « Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien pour motif de conscience. » Ne citez que ce seul verset. démontre une mauvaise compréhension des Écritures ou un désir de rejeter ce que l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens. Dans sa première lettre à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, Paul répond à diverses questions qui lui ont été transmises. Il leur dit « Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde, l'idole n'est pas Dieu, et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu si nous en mangeons. Si nous en mangeons, soit des viandes sacrifiées aux idoles. Nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Autrement dit, qu'elles aient été sacrifiées aux idoles ou non, qu'importe puisque l'idole n'est rien. Prenez garde toutefois, poursuit Paul, que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, toi qui sais qu'une idole n'est rien, assis à table dans un temple d'idole, et je vous informe qu'il y avait sous le temple ou à côté de celui-ci, une boucherie où l'on vendait ses viandes ainsi qu'un restaurant où on pouvait les consommer. Sa conscience, à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? C'est pourquoi si un aliment, mais une viande ici sacrifiée aux idoles, scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, des viandes sacrifiées aux idoles, afin de ne pas scandaliser mon frère. Partant de l'idée de scandaliser un frère, Paul ouvre une parenthèse pour aborder les critiques faites à son égard et y répondre. Il ferme cette parenthèse et poursuit sur le sujet des viandes sacrifiées aux idoles. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fouillez l'idolâtrie. Oubliez les idoles, n'y pensez plus, ne vous en inquiétez plus. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien pour motif de conscience. Il est encore et toujours question de ce qui est sacrifié aux idoles, mais il ne peut s'agir que de viande pure, car Paul avait une connaissance exacte de la loi, ayant été instruit au pied de Gamaliel. Il savait donc ce qu'Ésaïe avait écrit, « Ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre, ceux qui mangent de la chair de porc des choses abominables, autrement dit ce qui est impur, et des souris. » Paul savait donc ce qui doit être considéré comme nourriture et ce qui ne l'est pas. Paul poursuit. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de sa conscience. Je parle ici non de votre conscience mais de celle de l'autre. Pourquoi, en effet, ma liberté, la liberté de consommer de la viande en fait en sacrifice aux idoles, pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Il est question de rendre grâce sur la nourriture. Les animaux dont la chair est impure n'entrent pas dans cette catégorie. Ils ne sont pas considérés comme nourriture. Paul ajoute, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu, et donc conformément à la volonté de Dieu. » Ce passage des Écritures n'ouvre pas la porte à la consommation de n'importe quelle chair animale. Si c'était le cas, pourquoi ne pas manger également toutes ces plantes et ces champignons vénéneux qui existent de par le monde? Il suffirait de demander à Dieu de les bénir, et on pourrait alors s'en nourrir. Mais vous savez très bien qu'il n'en est pas question. Alors pourquoi vouloir considérer la chair des animaux impurs comme étant comestible? Cela ne tient pas debout. C'est Satan qui pousse l'humanité à s'opposer aux instructions divines et à faire le contraire de ce que Dieu ordonne. Qui allez-vous croire et en qui allez-vous placer votre confiance? Beaucoup de personnes sont confuses quant à la signification du 14e chapitre de l'Épître aux Romains. Beaucoup se servent de ce chapitre pour essayer de prouver que la loi interdisant la consommation de chair provenant d'animaux impurs est abolie. Examinons ce que Paul a écrit. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que de légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise point celui qui ne mange pas de tout. Et que celui qui ne mange pas de tout ne juge point celui qui mange de tout, car Dieu l'a accueilli. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Il y avait donc à Rome des personnes récemment converties qui étaient encore faibles dans la foi. Et nous voyons ici deux catégories de chrétiens, ceux qui mangeaient de tout et ceux qui ne mangeaient que de légumes certains jours. Une sorte de mépris s'était installé entre les deux groupes. Ceux qui mangeaient de la viande sans se soucier des jours avaient un certain mépris pour ceux qui ne mangeaient pas de viande certains jours et vice-versa. Remarquez que Paul ne dit pas que Dieu fait une distinction entre les jours ou qu'il les estime tous égaux. Il est question dans ce passage non de ce que Dieu pense, mais de ce que ces gens pensaient. En écrivant que chacun ait en son esprit une pleine conviction, Paul ne donne pas licence de croire ce que l'on veut, car il est écrit également « Ne t'appuie pas sur ta sagesse ». Paul poursuit « Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur ». Par cette phrase, nous apprenons qu'il y avait parmi les chrétiens des personnes qui ne mangeaient pas de viande certains jours. Elles se contentaient de légumes, tout comme à notre époque, il y en a qui se refusent encore à manger de la viande le vendredi. Celui qui mange de tout, c'est pour le Seigneur qu'il mange de tout, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas de tout, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas de tout et il rend grâce à Dieu. Il ne peut être question de rendre grâce, de demander à Dieu de bénir une viande qu'il considère comme étant abominable pour la consommation de l'homme. Le nouveau converti, lui, dans sa faiblesse momentanée, par suite d'anciennes convictions religieuses, veut s'abstenir de viande certains jours. Il croit plaire encore à Dieu en ne mangeant pas de tout, et lui aussi rend grâce, mais sur des légumes uniquement. Paul ajoute « Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. » Dans ce verset, Paul utilise le mot grec « koinos », signifiant « profane, souillé, pollué, par un mauvais usage, par exemple par une idole ». Il n'utilise pas le mot grec « akathartos », ce dernier mot étant utilisé pour la chair impure, comme c'est le cas dans Actes au chapitre 10. Rien n'est impur certains jours de la semaine pour redevenir pur les autres jours. À la vérité, poursuit Paul, toutes choses sont pures. Toute nourriture, tout ce que Dieu a défini comme étant de la nourriture. Mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Quels sont ceux que l'apôtre Paul considère comme ses frères? Il répond en écrivant « Ignorez-vous, frères, car je parle des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ses frères sont donc ceux qui connaissent la loi, qui la pratiquent, y compris ce qui se rapporte à ce qui peut être considéré comme étant comestible et ce qui ne l'est pas. » En prenant la peine d'examiner le contexte des versets, tout devient clair. Je terminerai ce sujet la semaine prochaine.